Bienvenue au podcast Sortie de secours présenté par Suicide Action Montréal. Mon nom est Joannie Duquette et ici, ce sera un endroit où on va vous présenter des discussions sans tabou, sans jugement sur le sujet du suicide et surtout où on va poser les vraies questions. Le suicide, il faut en parler puis on est là pour ça. Si vous êtes inquiet pour un proche, vous avez perdu quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, composez le 1-866-APPEL et surtout, ne restez pas seul dans la détresse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du risque suicidaire chez les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Bonne écoute! Bienvenue au podcast aujourd'hui. On va parler du risque suicidaire chez les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et pour en parler, on reçoit Dr. Cécile Bardon. Elle est professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, directrice associée au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, ainsi que chercheure à la chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement de l'UQAM. Bienvenue au podcast.
Merci beaucoup.
Merci d'être là. J'aimerais ça, si tu veux bien, qu'on commence avec un terme très de base et j'aimerais ça qu'on fasse la distinction entre c'est quoi déficience intellectuelle versus autisme?
Oui, c'est une grosse question de base.
Oui.
Ce sont deux phénomènes complètement différents. Ce sont des troubles développementaux, mais ce sont deux troubles complètement différents. La raison pour laquelle on va en parler ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'au Québec, les services aux populations et aux personnes qui ont une déficience intellectuelle et ceux aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme sont donnés dans les mêmes établissements. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le principe de fonctionnement des CIS et des CIUS, des centres intégrés de santé et services sociaux, c'est donné dans les directions DI pour déficience intellectuelle, TSA, et maintenant en plus DP pour déficience physique, de ces établissements-là. Donc ce sont des populations qui sont soignées ou en tout cas accompagnées, traitées ensemble.
Même si c'est complètement...
Si ce sont des syndromes et des troubles complètement différents. Par contre, l'autre élément qui justifie le fait qu'on les accompagne dans les mêmes équipes et les mêmes services, c'est qu'il y a des points communs quand même dans la façon de fonctionner. Dans les difficultés affectives, dans les difficultés cognitives, dans les difficultés sociales, les difficultés d'autonomie par exemple, ce sont des choses que toutes ces personnes-là peuvent rencontrer à des degrés variés et donc ça explique en grande partie pour les raisons pour lesquelles on les intègre dans les services. Un autre élément aussi à tenir en compte, c'est qu'il y a souvent une comorbidité qu'on appelle, c'est-à-dire que ce sont des syndromes qui apparaissent souvent ensemble chez plusieurs personnes. Donc, il y a des personnes qui ont un double diagnostic de déficience intellectuelle et de trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est plus un continuum. C'est pour ça qu'on parle d'un spectre,
oui,
l'autisme aussi beaucoup. C'est plus un continuum sur lequel les personnes vont se placer à l'intersection entre déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme. Mais au départ, ce sont deux syndromes qui sont identifiés de façon complètement indépendante l'un de l'autre.
Comment on pourrait expliquer la problématique du risque suicidaire chez les personnes, soit qui ont une DI ou un trouble du spectre de l'autisme?
C'est un vaste, vaste sujet qui est en cours de développement. Ça fait seulement quelques années qu'on considère que c'est possible. Et que la même façon que quand on parlait de comportement suicidaire chez les enfants jusqu'à il y a quelques temps, on avait de la misère à prendre ça au sérieux, où on disait, les enfants, ils savent pas de quoi ils parlent, ils disent ça parce qu'ils l'ont entendu quelque part, mais ils sont pas vraiment suicidaires. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi avec les personnes qui ont eu un DI ou un TSA, et que malheureusement, on entend encore beaucoup, il y a beaucoup d'éducation à faire encore, de dire, ces personnes-là, ils savent pas tellement, tu sais, ils disent ça parce qu'ils l'ont vu à la télé, ou ils ont entendu quelqu'un qui le dit,
puis ils
cherchent l'attention.
Okay.
Ils pensent pas vraiment, parce qu'ils savent pas. Ça, c'est terrible comme approche, parce que ça a fait que, pendant très très longtemps, on n'a pas pris assez au sérieux la détresse psychologique, émotionnelle, cognitive, affective, etc., que pouvaient vivre les personnes. Et donc, un des problèmes importants qu'on a avec le risque suicidaire chez les personnes qui ont une DI ou un TSA, c'est de les prendre au sérieux et de considérer cette détresse pour ce qu'elle est, de la vraie souffrance dont il faut s'occuper. Et pour moi, le cœur de la problématique, il est là, avec les personnes. Maintenant qu'on est en train de prendre conscience que ce problème existe pour vrai, et que quand une personne dit qu'elle veut mourir, c'est qu'elle va pas bien et qu'il faut s'en occuper, ce sont souvent des personnes qui ont des trajectoires de vie très complexes, avec des difficultés sociales, émotionnelles, de parcours de vie aussi extrêmement complexes, qui font que, bien souvent, elles accumulent beaucoup de facteurs de risque. Beaucoup plus que dans la population générale, souvent, et ont moins de facteurs de protection parce que plus fragilisées, plus isolées que bien des personnes de la population générale. Donc, ce qu'on voit dans les problématiques suicidaires avec les personnes des ITSA, c'est souvent une exacerbation de ce qu'on peut voir avec le reste de la population.
Et j'imagine que un environnement familial peut faire la différence aussi. Quelqu'un qui est moins bien accompagné versus quelqu'un qui a une famille plus présente.
Complètement. Sachant à quel point ça peut être parfois complexe, parce qu'on ne veut pas tirer la pierre à aucune famille non plus. Mais sachant que parfois ça peut être extrêmement complexe déjà de comprendre ce qui se passe, puis d'accompagner une personne qui vit avec un TSA ou avec une déficience intellectuelle. Ben oui, un environnement familial bien soutenu, c'est souvent une personne bien soutenue. Aussi à travers son environnement, à travers son milieu, ça peut devenir un facteur de protection.
La prévalence de suicide chez ces gens-là, est-ce que c'est plus élevé que chez les personnes de la population en général, comme on disait? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça?
On en a très peu.
Très peu.
Puis aussi, beaucoup des comportements suicidaires ne sont pas nécessairement compris comme tels. Donc du coup, ça fait varier notre compréhension de la réalité de la situation. Des fois, ça peut passer pour un accident. Des fois, ça peut passer pour un geste extrêmement impulsif qu'on ne comprend pas. L'exemple qui me vient toujours en tête par rapport à ça, c'est vraiment un cas qu'on avait eu dans nos études il y a quelques années, d'une personne qui avait eu des idéations, puis c'était des idéations suicidaires, puis apparemment ça s'était apaisé, ça allait mieux. Elle a le droit de sortir avec son intervenante. Première fois qu'il sort pour aller au dépanneur ou quelque chose comme ça, de sa résidence, se jette sous un autobus. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un geste délibéré? Dans quelle mesure il y avait une intention? Dans quelle mesure l'impulsivité s'est exprimée? Mais c'est étrange, un geste impulsif d'autodestruction à ce point-là. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Donc, c'est pas toujours évident de mettre une étiquette geste suicidaire sur un comportement qu'on a pu observer ou même sur un décès qu'on a pu constater. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont un TSA de haut niveau, ce qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas longtemps les Asperger, ont des taux de décès par suicide qui peuvent être très, très, très élevés, beaucoup plus élevés que la population générale. On a des données qui sont récentes sur les jeunes au Québec, qui montre que les taux de décès par suicide sont deux fois plus élevés chez les jeunes qui ont un TSA que chez les jeunes neurotypiques de la population générale. Jusqu'à un tiers des personnes qui vivent avec un TSA ont des idéations suicidaires de manière récurrente et régulière. C'est énorme. Et chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle, et donc une partie de ceux qui ont un TSA qui ont aussi une déficience intellectuelle, plus la déficience est sévère, donc, c'est-à-dire que moins la personne est verbale, moins elle est facile à comprendre, ben moins on a observé de gestes suicidaires. C'est-à-dire que chez les gens qui ont une DI plus légère, ont des taux qui ressemblent pas mal à ceux de la population générale, mais avec des taux d'idéation qui sont aussi plus élevés qu'avec la population générale. Mais plus la déficience est sévère, moins on observe de décès par suicide et de tentatives de suicide, parce que moins la personne a la capacité de planifier un geste, ou d'exprimer un désir que la vie s'arrête.
Une idée.
Ouais, exactement.
Juste une petite parenthèse, parce qu'on dirait que je veux utiliser les bons mots. T'as dit, jusqu'à tout récemment, on parlait d'Asperger. Est-ce que c'est parce que c'est un terme qu'on délaisse, qu'on laisse de côté? Est-ce que c'est...
De plus en plus, on parle de spectre de l'autisme. On va parler de personnes avec un fonctionnement de haut niveau, de personnes avec un TSA de fonctionnement de haut niveau. Il y a des pays dans lesquels on parle encore beaucoup d'Asperger, il y a des pays dans lesquels, ça dépend des classifications, mais de plus en plus, on va tendre à parler de autistes avec un fonctionnement de haut niveau.
OK.
Mais quand on parle d'Asperger, tout le monde comprend ce dont on parle.
Je me demandais parce que c'est quelque chose qui, même jusqu'à tout dernièrement, des gens, des artistes, j'ai été diagnostiquée de.
Tout à fait.
Dans le but d'éduquer. OK. Fait que c'est juste un autre terme que l'on peut utiliser.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut élaborer sur les facteurs de risque que présentent les personnes qui ont une DI ou une TSA en général?
Oui, ben en fait, essentiellement, la base est la même qu'avec la population générale. Troubles de santé mentale, événements de vie traumatisants, difficultés sociales, difficultés à avoir un travail, à avoir une estime de soi qui se construit de manière positive, etc., comme tout le monde. Sauf que ces facteurs-là sont démultipliés dans cette population. Oui. Parce que ce sont souvent des gens qui, on a avec, particulièrement avec les gens qui ont un TSA, des difficultés sociales, des difficultés de s'intégrer, beaucoup d'expériences de rejet, qui vont augmenter finalement le risque parce qu'elles sont plus présentes que dans la population générale, ces éléments-là et ces facteurs-là.
Puis peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être plus seules aussi, moins de gens autour pour s'exprimer ou sur ce qu'ils vivent et tout ça, là, ça doit être plus difficile.
Oui, avoir du soutien quand ça va pas. Déjà, reconnaître qu'on a besoin de soutien parce que souvent, il y a une moins bonne capacité à prendre conscience de ses propres besoins et de sa propre situation émotionnelle, c'est pas que la personne n'a pas d'émotion, c'est qu'elle a de la difficulté à comprendre et reconnaître l'émotion qu'elle vit, donc à exprimer quand ça va pas. Et souvent, ça va sortir sous forme d'une crise comportementale.
Ok.
Et on va adresser la crise comportementale sans nécessairement aller chercher à comprendre mais d'où ça venait. La détresse qui est en dessous, on s'en occupe pas assez. Et c'est un petit peu un des grands défis que moi je veux qu'on adresse dans les prochaines années avec ces populations, avec ces personnes-là, c'est que la détresse, elle est émotionnelle, elle est profonde, et c'est de ça qu'il faut s'occuper, et pas simplement du comportement explosif.
La crise est arrivée, ok, on la gère, mais il faut savoir le pourquoi, de où ça a parti tout seul.
D'où c'est parti, puis bien souvent, si on traite pas ça, ben ça va revenir, puis ça va revenir, puis ça va revenir. Et ce sont des personnes qui ont des dynamiques de récurrence d'idéation suicidaire et de tentatives beaucoup plus importantes que dans la population générale, parce que justement, on n'adresse pas toujours de la bonne façon le bon problème.
Puis à l'inverse, ce serait quoi les facteurs de protection?
Ben, un peu comme tout le monde, d'avoir d'abord le premier et qui leur manque essentiellement tout le temps, c'est d'être entendu. Que la détresse soit reconnue, que le fait que quand je dis que je veux mourir, ça soit pris au sérieux, puis qu'on ne me dise pas « Ah non, en fait, tu ne veux pas vraiment mourir, ce que tu veux, c'est autre chose. » Non, 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 je veux qu'on s'occupe du fait que je ne vais pas bien. Si on était tous capables d'avoir cette attitude-là, correcte finalement, et d'écoute et d'acceptation et de compréhension, déjà, ça ferait un gros bout de chemin. C'est un immense facteur de protection. Ensuite, ben, avoir ces problèmes psychosociaux adressés, traités. Si on vit de l'isolement, si on vit du rejet, que ça soit traité socialement, pas médicamenté, mais socialement. Avoir un réseau de gens avec lesquels on est capable de s'entendre et avec lesquels on est capable de bâtir des relations positives, constructives, sociales, humaines, comme tout le monde. C'est plus difficile avec ces personnes-là, c'est d'autant plus précieux d'y arriver. Avoir une famille qui bénéficie d'un bon soutien. Avoir des intervenants qui connaissent et comprennent le risque suicidaire et sont capables d'en parler avec la personne et d'en parler avec les proches de façon à ce que ça soit pas un tabou, mais que ça soit quelque chose qu'on prend en charge et dont on s'occupe. Tout ça, ça fait partie d'avoir un projet de vie qui a de l'allure et qui fait du sens pour la personne, avoir accès aux ressources dont on a besoin, ne pas être sur des listes d'attente pendant 5-10 ans pour un diagnostic ou pour une intervention. Tout ça, ça fait partie des facteurs de protection.
J'ai l'impression que moi, il y a un mot qui me sonne en tête, c'est le mot tabou, parce que j'ai l'impression que ça l'est beaucoup, même encore en 2021. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éduquer mieux les gens peut-être par rapport à ça, puis d'enlever le mot tabou? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire?
Ben, ce qu'on est en train de faire là,
oui, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon début.
Et de un, travailler beaucoup avec les milieux d'intervention, parce que ça passe beaucoup par eux. Le fait qu'on soit capable de voir cette réalité-là pour ce qu'elle est et non plus à travers un prisme qu'on avait d'une crise comportementale ou bien de quelqu'un qui cherche à manipuler ou qui a besoin d'autre chose, mais qu'on le voit réellement comme une détresse psychologique dont il faut s'occuper. Et je sais que c'est quelque chose que je dis tout le temps, là, mais il y a de la détresse, il faut s'en occuper.
Ouais.
Puis sensibiliser les milieux d'intervention, les outiller, parce que généralement, les gens, les milieux, ils sont pas... c'est pas un tabou parce que tout le monde a décidé que ça le serait, là. C'est un tabou parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'on se sent pas outillé comme il faut. Donc, briser cette impuissance-là, expliquer, outiller. Il y a de plus en plus d'outils spécialisés en prévention du suicide avec ces clientèles qui circulent. Utilisez-les en tant que milieu. Rassurez les parents, les proches sur le fait que parler de suicide avec un de leurs proches, un de leurs enfants ou un frère, une sœur qui a une déficience intellectuelle, c'est pas ça qui va leur donner l'idée. Ce qui leur donne l'idée de dire qu'ils veulent se tuer, c'est quand leur détresse n'est pas entendue.
C'est ça.
Mais parler de la détresse pour vrai, puis en tenir compte pour vrai, ben, ça veut dire trouver des solutions aussi à cette détresse-là. Et là, les idéations suicidaires vont disparaître d'elles-mêmes.
Je trouve ça important. Puis je pense que même dans un cas de déficience intellectuelle, d'autisme, et ou peu importe qui, d'en parler, de dire non, d'en parler ne fera pas passer l'autre personne à l'acte.
Exactement.
Je trouve ça vraiment très important.
En parler dans le bon contexte.
Oui, ben oui.
Parce qu'en parler à la télé, puis en parler dans un film, non.
Non, c'est ça.
Mais en parler avec une personne parce qu'on se préoccupe d'eux, et puis parce qu'on est intéressé de ce qu'ils vivent, et parce qu'on veut les aider à aller mieux, il n'y a jamais rien qui a démontré, jamais. Et au contraire, toutes les données qu'on a vont dans le sens de dire que ça ne donne pas l'idée qu'on soit un enfant, un ado, une personne avec une déficience, un adulte, une personne vieillissante, de pouvoir le mettre sur la table et dire s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'en occuper pour vrai? C'est précieux. C'est comme ça que les tabous tombent.
J'imagine aussi qu'il doit y avoir des organismes qui sont faits spécifiquement pour cette population-là en général. Est-ce que y a pour eux peut-être des outils plus spécialisés, plus pointus?
Oui, on parlait des directions DI, TSA, DP tantôt, qui sont un petit peu les organismes du réseau de la santé, services sociaux, qui s'occupent des personnes qui ont des besoins de services à cause d'une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme, que ce soit sous forme d'hébergement, de soutien à domicile, etc., etc. On a développé des programmes de formation qui sont déployés maintenant de plus en plus dans le réseau, pour que justement les intervenants soient sensibilisés, équipés, outillés, détabouifiés d'une certaine façon par rapport à l'impuissance qu'on vit face au suicide. Et les pratiques sont en train de changer au Québec depuis quelques années suite à justement cette prise de conscience qu'on ne regardait pas ça de la bonne façon.
Et, donc, il y a une évolution.
Il y a une évolution qui est très intéressante. Il y a beaucoup de travail à faire encore pour que ça continue à évoluer. Je suis super contente parce qu'à l'UQAM, je pense qu'on a le premier cours de l'univers qui a été donné, autant en tout cas du Québec, qui a été donné sur la prévention du suicide chez les personnes ayant une déficience intellectuelle dans le cadre des DESS qui sont donnés à l'UQAM. Chaque année, je vais raconter, faire un cours de 3 heures sur le risque suicidaire aux futurs intervenants. Donc, il y a comme avec la chaire et Diane Morin. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la sensibilisation de ces milieux-là. Et donc, le tabou est en train de tomber et le sentiment d'impuissance aussi est en train de tomber. Il n'existe pas d'organisme qui allie déficience intellectuelle, risque suicidaire, parce que c'est quand même très pointu, ou autisme et des risques suicidaires, quand même très pointu comme problématique. Ça fait partie du problème qu'on a eu depuis plusieurs années. « Ah, c'est quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, il doit aller à la direction DITSA. Ah, mais c'est quelqu'un qui est suicidaire. Ah non, il doit aller dans le milieu du suicide. » Et les gens tombaient un peu entre les
deux chaises.
Les cracks et du plancher ou les chaises. Mais là, on est en train de renforcer ce maillage dans plein de régions du Québec. On travaille fort pour que les CPS, les centres de prévention, s'associent avec les directions DI quand il y a une clientèle spécifiquement DITSA, suicidaires, ils travaillent ensemble de plus en plus. On est en train vraiment d'essayer tranquillement, pas vite, le plus vite possible, de développer cette culture de collaboration entre les milieux pour que, justement, on puisse voir les problèmes pour vrai.
Ça serait quoi les défis de l'estimation du risque ou du danger, là, un ou l'autre, suicidaire chez les personnes qui présentent une DI ou un TSA pour les milieux d'intervention?
Ça, c'est la question à 100 points. essentiellement, la communication. On parlait de gens qui ne parlent pas nécessairement bien.
Oui.
Quels sont les indices non-verbaux?
Comment on fait pour déceler ça?
Utiliser pour comprendre la détresse? Ben, essentiellement, c'est travailler de manière très, très étroite avec les gens qui connaissent bien la personne. à travers des changements qu'on peut observer dans son humeur, dans ses comportements, dans ses rituels, dans son discours quand il y en a.
Dans des routines, j'imagine aussi.
Des routines de vie. Quelqu'un qui est capable de fonctionner, puis d'un seul coup, elle fonctionne moins bien que d'habitude. Il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Il s'est peut-être passé un événement, il y a peut-être eu quelque chose. L'utilisation du langage présente des défis importants. C'est souvent des gens qui ont des discours qui peuvent être assez symboliques, assez imagés, où les mots ne veulent pas forcément dire la même chose pour eux que pour, le commun de la population.
Oui. Peut-être plus dans l'imagé ou ça peut...
Parfois, ou alors d'avoir carrément des façons d'utiliser les mots qui sont très différentes. Mais il faut connaître la personne. La seule façon de réellement comprendre ce qui se passe, c'est de connaître la personne. Et c'est là qu'un des grands défis, c'est que si moi, je connais bien la personne, je ne suis pas forcément spécialiste de la prévention du suicide. Donc, travailler en équipe entre ceux qui connaissent bien les personnes, ceux qui sont des experts de la prévention, pour pouvoir bâtir un vocabulaire commun autour de la situation de cette personne-là. Donc, ça veut dire se faire confiance, ça veut dire partager l'information. Mm-hmm. Ça, c'est des défis importants. Après, la capacité d'avoir un insight sur soi-même et sur ses propres émotions. On l'a abordé un petit peu tantôt, mais ça, c'est vrai de ces personnes-là beaucoup, mais c'est vrai de ben des gens qui sont suicidaires. Si on est rendu à penser au suicide comme une option, finalement, pour sortir d'un problème, c'est qu'on a de la misère aussi beaucoup à conceptualiser ce qu'on vit et trouver des solutions autres que le suicide par rapport à ce qu'on vit. Mais ça, c'est décuplé chez ces personnes-là.
OK.
Donc, arriver à bâtir une compréhension communicable de comment je me sens, de comment les autres sentent que je me sens, de réflexivité sur soi et sur autrui, c'est très difficile. Donc, des fois, il faut rester vraiment dans le concret, dans le comportemental, et ça peut faire dériver l'évaluation vers quelque chose de très, justement, lié aux gestes ou aux comportements ou aux mots, beaucoup plus qu'à la détresse qui était en dessous, par exemple. Donc ça fait partie des grands défis qu'on a. Le fait aussi que l'impulsivité peut être immensément présente.
Est-ce qu'elle est plus grande?
Chez certaines des personnes, oui, parce que ça dépend d'où vient la déficience, ça dépend de comment ça s'est bâti génétiquement, biologiquement, etc. Ça peut être beaucoup plus présent. Donc du coup, ça cesse d'être un indicateur fiable, l'impulsivité, parce que la personne est impulsive tout le temps.
Oui.
Donc, comment est-ce que je vais distinguer quelque chose qui va m'aider à dire « Ah ben là, aujourd'hui, par rapport à un risque suicidaire, l'impulsivité, c'est plus que d'habitude, c'est très difficile. »
Parce que je pense que pour la question à 100 points, moi, je donne le 100 points au comble. je trouvais ça parfait. Mais là, je ne sais pas si celle-là va être à 100 ou 200 points. Mais pour tout ce qui est de la compréhension de la mort, ça, je sais que c'est un gros morceau.
C'est un très gros morceau.
La compréhension de la mort, le côté qui est permanent, on va se le dire, est-ce que c'est un enjeu pour ces personnes qui souffrent de DI, qui souffrent aussi du spectre de l'autisme?
Oui, complètement, parce que toute la compréhension qu'on a en tant que personne neurotypique du suicide vient du fait, et on entend souvent les intervenants le dire, que c'est une solution définitive à un problème temporaire.
Temporaire, oui.
Mais pour beaucoup de ces personnes-là, le définitif, le temporaire, ça fait aucun sens.
Oh, il n'y a pas de différence.
La notion de temps...
OK.
Elle peut être très élastique ou très peu comprise. Donc, ce sont des gens qui vivent peut-être beaucoup dans le présent ou dans un cadre temporel qui peut être un peu différent d'une autre et pour lesquels la mort n'a pas forcément les caractéristiques qu'elle a pour le reste de la population. Puis, c'est un truc développemental aussi. C'est des choses qu'on trouve chez les enfants très jeunes aussi.
Okay.
Le fait que la mort n'est pas vécue comme définitive. Donc, les trois caractéristiques de la mort... Mm-hmm. Définitive, donc tout le monde, quand on meurt, c'est pour toujours.
Oui.
Inévitable,
on
peut
pas
y échapper, on passe pas à côté, et universel, tout le monde. Mais quand on n'a pas acquis, ça c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure du développement de l'enfance.
Mm-hmm. C'est inconscient.
On peut le voir, on l'apprend.
Mais oui, c'est ça, j'ai pas appris ça à l'école, mais
non,
ça,
on l'apprend en étant confronté à la vie, en ayant notre cerveau qui mature, etc. Ouais. Et donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent avoir acquis certaines de ces composantes et pas d'autres. Peuvent comprendre que tout le monde meurt, mais pas penser que c'est définitif.
Ok, je comprends.
Et donc, du coup, il ne faut jamais se baser sur l'idée qu'elle ne comprend pas ce qu'est la mort. Donc, vouloir se suicider, ce n'est pas vrai. Je peux très bien dire, je suis tellement malheureux aujourd'hui que je veux mourir, mais demain, je mangerai bien une crème glacée. Puis ça fait partie des choses qui, pendant des siècles, peut-être, ont fait qu'on a peut-être moins pris au sérieux la détresse de cette personne-là. Comment tu peux vouloir mourir aujourd'hui?
Et demain.
Et demain aller au bowling ou demain aller manger une crème glacée. Mais c'est parce que ma détresse, aujourd'hui, elle est intense. Mais moi, j'ai pas l'impression que si je meurs aujourd'hui pour soulager cette détresse-là, que demain, je pourrais pas me lever et continuer. Alors, est-ce que ça devient un facteur qui nous empêche de faire l'évaluation? Est-ce que ça devient un facteur de protection? Ou au contraire, est-ce que c'est un facteur de risque? Il y a bien des personnes pour lesquelles j'aurais tendance à penser que ça va être un facteur de risque. Parce que si j'ai pas cette notion-là que la mort, c'est pour toujours, j'aurais peut-être moins d'inhibition à faire un geste définitif. Parce que j'aurais pas la conception que ça va être définitif.
Demain, tout va recommencer.
Exactement. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire autour de cette notion-là. Les difficultés à comprendre la mort pour ce qu'elle est, ça vient aussi beaucoup du fait qu'on n'en parle jamais avec ces personnes-là et qu'elles ne peuvent pas apprendre de leur expérience tant que ça, parce qu'on les protège de la mort des autres, de la mort de leurs proches.
En parlant pas, de faire comme un petit cocon, ça
Ouais, mais au contraire, ça crée une espèce de vulnérabilité immense à devoir construire dans sa tête une idée de ce qu'est la mort à travers des années d'expérience, mais des cognitions incomplètes. Ça peut faire un sacré mélange qui devient compliqué après à décortiquer pour essayer de comprendre comment ça interagit avec la détresse de cette personne-là aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore avec ça, mais ce que je pense qu'il faut ressortir comme message clé, là, c'est que la compréhension de la mort soit complète ou pas, une idée suicidaire, c'est une idée suicidaire, il faut s'en occuper.
Ouais.
Et que quand la personne est en crise ou en épisode suicidaire, c'est pas le moment pour aller explorer ça de long en large.
Non.
Mais quand on s'est apaisé un petit peu assez pour être sorti de l'épisode, ben là, ça devient hyper important d'aller explorer ce qu'elle en comprend, puis peut-être travailler avec elle sa compréhension, l'améliorer, l'enrichir à travers des narrations, à travers des histoires, à travers des exemples concrets qui vont l'aider à comprendre ce que c'est pour vrai. Et là, on peut parler de détresse, et on peut parler de comment on se sent, et on peut parler de l'avenir, et de comment est-ce qu'on va sortir de ce cercle vicieux suicidaire avec elle. Donc,
Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être, dans leur famille, il y a une personne qui a une déficience intellectuelle, le spectre de l'autisme, on parlait d'intention suicidaire tantôt, ça peut être une crise, un changement de routine, est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qu'on peut observer peut-être, il n'y a pas de formule magique, mais un petit peu d'avance de dire « Ok, là, c'est peut-être problématique. » Est-ce qu'il y a des petits trucs qu'on peut observer qui permettent de s'inquiéter davantage peut-être?
À partir du moment où on connaît bien la personne, n'importe quel changement dans ses émotions, dans sa routine de fonctionnement, etc., peut devenir une espèce de petites cloches qui sonnent, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça peut être une douleur physique, qu'on a de la misère, on a mal au ventre, quand on est une femme, on peut avoir des menstruations douloureuses qui peuvent déclencher un changement de comportement, quand on peut avoir mal à la tête, ça peut être des douleurs physiques, souvent qu'on ne comprend pas et qu'on néglige parce qu'on ne les a pas observées, ou ça n'a pas été dit. Ça peut être aussi un événement qu'on a vécu, ça peut être quelque chose qui augmente un sentiment de perte de prise sur sa vie. Ce sont souvent des personnes qui vivent dans des environnements très contrôlés, très organisés pour eux, leur marge de manœuvre pour s'exprimer ou pour vivre des expériences peut être assez limitée. Donc, des fois, quand on vit des petits événements qui réduisent encore cette marge de manœuvre, ça peut être un moment un peu déclencheur de quelque chose. C'est l'accumulation de toutes ces petites choses, de limitation de son autonomie, qui fait que finalement, le moyen de reprendre le contrôle sur sa vie, c'est de l'enlever, d'une certaine façon. Donc, il y a quelque chose qui peut se jouer là. Des petites pertes, des petits deuils. On a perdu un objet, il y a un ami qui ne veut plus nous parler, le chat de la résidence où on vit s'est enfui, j'ai pas pu manger ce que je voulais. Quand la vie est très centrée autour des besoins primaires et autour de petites choses, perdre ces petites choses deviennent immense. Des événements majeurs. Puis vu de l'extérieur, ça ne l'est pas. Donc, cette accumulation de petites pertes peuvent être aussi des moments de déclencheur. Puis, à côté de ça, il y a les gros événements que généralement on voit venir. La rentrée des classes, un changement de résidence, partir de chez les parents, des grosses chicanes de famille ou des grosses chicanes avec la fratrie. Toutes ces choses-là, là, on est plus capable de les identifier. Mais ce sont des choses aussi où on peut se dire, il faut se méfier, il faut l'accompagner, la personne, pendant cette transition-là ou cette étape-là.
Donc, pour quelqu'un qui nous écoute présentement, moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est de jamais banaliser et de mettre dans un panier de « ben non, mais attends, là, ça fait pas de sens, pas parce que le chat a quitté que là, c'est terminé pour toi. » C'est de ne jamais rien prendre à la légère puis de voir ça comme étant un appel à l'aide quand même. C'est juste une accumulation de plusieurs semaines.
Exactement. Des choses qui ont l'air anodines vu de l'extérieur, mais qui ne le sont pas pour la personne et qui doivent être analysées à la hauteur de la vie de cette personne-là. Il y a quoi dans la vie de cette personne-là et la place que cette perte-là prenait, par exemple, dans sa vie? Pas dans celle que nous, on anticiperait. Mm-hmm. On a tendance à énormément projeter sur des personnes qui sont moins autonomes ce que nous, on pense qu'ils ont besoin. Mm-hmm. Mais essayons de regarder leur vie de leur point de vue.
Ah, c'est bon, ça.
Et de voir ça de cette façon-là. Moi, si j'étais dans sa peau, je le vivrais comment, ça? Et ça donne une certaine humilité aussi par rapport à pouvoir dire « Ok, c'est important, faut que je m'en occupe. »
Et dans toutes les sphères aussi, de dire « C'est pas parce que moi, je réagirais pas comme ça que de se mettre dans la peau de... » Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et pour ceux qui, justement, côtoient une personne qui ont une DI, une TSA... Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut aller fouiller là-dessus, aller justement prendre de l'information puis de se bâtir un coffre à outils pour mieux réagir s'il arrive quelque chose comme ça, une situation où on a un proche qu'on pense qui est en danger?
Ouais, ben la première chose, ça va être de parler à quelqu'un dans un CPS.
OK.
Parce que de plus en plus, les gens dans les centres de prévention sont sensibilisés aux spécificités de ces clientèles-là et eux, ils ont de plus en plus aussi accès à des outils spécialisés. Sinon, nous, avec tous les projets de recherche qu'on a fait et puis le travail qu'on a fait depuis 5-6 ans maintenant, on a tout rassemblé, toute l'information qu'on a été capable de générer sur un site web qui s'appelle ditsasuicide.ca. Donc, c'est pas compliqué. Et là-dedans, tous les outils qu'on a développés, sont tous là. Il n'y a pas de réponse encore pour tout. On est vraiment dans l'enfance de la compréhension des enjeux associés à la suicidalité chez ces différentes clientèles qui sont sur ce spectre-là de l'autisme et de la déficience. Mais il y a quand même quelques outils qui commencent à nous permettre d'être moins impuissants puis de s'orienter un peu mieux.
Il faut en parler plus, puis vous êtes là pour ça, je trouve ça vraiment...
On est là pour ça.
Merci beaucoup, merci Dr. Cécile Bardon, puis bonne chance pour les prochaines recherches. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci, ça fait plaisir.
Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode et merci à notre invité pour cette belle conversation. On vous le rappelle, si ça va pas, n'hésitez pas, vous composez le 1-866-APPEL. À la prochaine!